que nous avons dû donner ou demander. Mais c'est un sujet dont nous parlons souvent parce que c'est tellement important. Et ce que nous voulons faire cet après-midi, c'est d'abord vous montrer l'importance du pardon. Et que c'est quelque chose d'absolument incontournable pour tout chrétien. Alors je voudrais partir d'un texte de l'Évangile situé en Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi, dit Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 1 million d'euros. C'est-à-dire une somme très considérable. Dans le texte, il y a 10 000 talents. C'est une somme énorme, que de toute façon, le serviteur n'aurait pas pu rembourser, tellement cette somme est énorme. Alors j'ai mis 1 million d'euros pour traduire, c'est plus parlant, mais bon. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Dans les temps bibliques, de sérieuses conséquences attendaient celui qui ne pouvait pas rembourser ses dettes. Son créancier pouvait l'obliger, lui et sa famille, à travailler jusqu'à rembourser jusqu'au dernier sou. Il pouvait également le faire jeter en prison ou le vendre comme esclave avec toute sa famille. Et si le débiteur ne pouvait se procurer de l'argent en vendant ses propriétés et si sa famille ne pouvait l'aider, il restait en prison à vie. Alors, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Car c'était une façon de faire, une coutume à l'époque. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Quel est donc ce serviteur qui devait une somme si colossale à son maître? Qui est donc ce serviteur? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est moi? Car la Bible dit que tout homme qui arrive sur cette terre arrive avec une dette énorme qui a été contractée par nos premiers parents. Et la Bible dit que tout homme qui arrive sur cette terre est voué à l'enfer. C'est une dette que aucun homme ne peut payer. Elle est si grande, cette dette, qu'il a fallu que ce soit le Fils de Dieu lui-même qui vienne la payer à notre place. Il a payé le 1 million d'euros à notre place. Et c'est ça la bonne nouvelle. On va le redire tout à l'heure. Touché de compassion, donc le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 50 euros. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi, et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Mais quel est donc ce serviteur qui, après qu'on vient de lui remettre une somme énorme, refuse de remettre à son ami une somme dérisoire de 50 euros? C'est toi? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Chaque fois que nous refusons de pardonner à l'un de nos frères. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Je relis cela. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et cette parole, elle est incontournable, comme toute parole du Seigneur. La Bible est à... Voilà, reprends-la tout de suite. Oui, frères et sœurs, le pardon n'est pas naturel. Il n'est pas inscrit au cœur de l'homme. C'est la vengeance qui l'est. Même les animaux se vengent. Faites du mal à un animal, il s'en souviendra des années durant. Faites du mal à un homme, il s'en souviendra toute sa vie. Même les animaux se vengent encore une fois. Et si vous faites du mal à un animal, et si vous croisez son chemin, même longtemps après, vous risquez fort de passer un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « une mémoire d'éléphant ». Les animaux ont une mémoire d'éléphant pour dire cela, hein, qu'il se souvient pendant très très longtemps du mal qu'on a pu lui faire. Oui, c'est la vengeance qui est inscrite au cœur de l'homme, frères et sœurs. Et l'homme a toujours eu envie de rendre le mal pour le mal et de rendre au-delà du mal qui nous a été fait. Si bien que dans l'Antiquité, on a institué la loi du talion, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Cette loi qui peut nous paraître sévère, a pourtant marqué un progrès décisif sur le plan moral pour l'humanité. Parce qu'avant, quand on nous avait fait du mal, on pouvait faire n'importe quoi et rendre bien, bien au-delà. Alors que cette loi codifiait d'une manière stricte les représailles. C'est-à-dire que si on vous avait crevé un œil, vous ne pouviez pas crever les deux yeux à votre ennemi. Si on vous avait cassé une dent, vous ne pouvez pas casser toute la mâchoire, etc., bien sûr. Hein? Voilà. Et même Jésus fait allusion à cette loi. Il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà, l'homme a toujours eu envie de se venger, de rendre le mal pour le mal. C'est inscrit en nous. Mais Jésus est venu briser la spirale de la vengeance et la remplacer par celle du pardon. Alors, vous le savez, après la faute d'Adam, le pardon de Dieu va s'incarner en Jésus-Christ. Et par le sacrifice en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec le Père. Et les portes de l'éternité nous ont été ouvertes par le sacrifice de Jésus-Christ. En effet, depuis le péché originel, nous naissons tous pécheurs et voués à l'enfer. Un bébé qui vient de naître est pécheur. Il n'a pas péché, mais il est pécheur parce qu'il a une nature pécheresse. Il hérite, comme chacun de nous, donc de cette nature pécheresse. Oui, la Bible dit, je le répète, que nous naissons tous pécheurs et voués à l'enfer. C'est une parole difficile à entendre, mais elle est biblique. Mais voilà, il y a eu Jésus-Christ. Et nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. À la croix, il a payé notre dette à notre place. Il a payé le 1 million d'euros de la parabole que nous n'aurions pu jamais payer. Même par nos efforts, c'est impossible. C'est le sacrifice de Jésus qui a payé cette dette. Il a payé la rançon. Et en français, le mot rançon est le doublet du mot rédemption. C'est la déformation du mot rédemption. C'est le même mot, en fait. C'est quand même intéressant. À la croix, nos péchés ont été pardonnés. Ils ont été, dit l'Écriture, cloués à la croix. C'est le sang de Jésus qui coule au calvaire, qui nous rend plus blancs que neige. Il y a 15 jours, nous étions en Centrafrique et je disais à l'assistance noire, vous êtes plus blanc que neige. Alors, ils éclataient de rire, mais c'est vrai. Voilà, c'est l'agneau immolé pour nos péchés, une fois pour toutes, un sacrifice total, un sacrifice définitif. Et notre pardon en Jésus-Christ, non seulement nous a réconciliés avec le Père, mais il nous a redonné notre dignité d'enfant de Dieu et d'héritier de toutes les promesses contenues dans la Bible. Promesses qui sont pour nous dès aujourd'hui, frères et sœurs. Et vous le savez, il n'y a pas si longtemps est paru un film qui s'appelle La Passion. Certains d'entre vous l'ont vu sans doute. Ce film, certains l'ont aimé, d'autres ne l'ont pas aimé. Bon. Mais ceux qui ne l'ont pas aimé ont dit « Oh là là, c'est beaucoup trop sanglant !» Mais non, pas du tout. La Passion, ça a été quelque chose d'absolument terrible, d'absolument horrible. Et quand on lit les évangiles, c'est dit d'une manière feutrée. La Passion a été particulièrement sanglante et c'était un supplice absolument horrible. Quand on sait que, vous savez qu'au moment de la flagellation, les fouets, chaque lanière était terminée par un morceau d'os très pointu ou un morceau de métal qui faisait que chaque fois que le Seigneur recevait un coup de fouet sur le dos, il y a des morceaux de sa chair qui étaient arrachés. Donc c'était des souffrances inimaginables. Et toute la passion, hein, vous savez que ici, c'est pas ici que les clous sont passés, c'est là, hein. Et là, il y a un nerf, je ne sais plus comment il le s'appelle. Oui, quand on le touche, c'est une souffrance, c'est peut-être la plus grande souffrance qu'un homme peut subir. Vous voyez? Là, les pieds, bien sûr. La passion, ça n'a pas été de la rigolade. Ça a été une souffrance inimaginable. Mais le meilleur des films peut montrer la souffrance physique, certes, mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais montrer, c'est la souffrance morale, qui est infiniment plus grande encore que la souffrance physique. Car au moment où Jésus est sur la croix, il porte tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire tous les péchés qui se sont commis depuis la création du monde et tous les péchés qui se commettront jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, la Bible dit qu'il s'est fait péché. Il s'est fait péché. Jésus-Christ sur la croix, sur le plan moral, il est absolument horrible parce qu'il est revêtu de tous les péchés du monde au point que son Père lui-même se détourne de lui. Et que Jésus, que des tripes de Jésus sort ce cri, Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, alors cette souffrance-là, aucun film ne pourra la remontrer. Mais elle est encore plus grande, sans doute, que n'importe quelle souffrance physique. Oui, frères et sœurs, c'est cela la bonne nouvelle. Nous n'avons plus à payer cette dette que nous n'aurions pu jamais payer. La bonne nouvelle, c'est que tous nos péchés que nous avons commis, que nous commettons et que nous commettrons, ont déjà été payés. C'est fait. D'ailleurs, le Seigneur à la croix dit, tout est accompli. C'est fait. C'est ça. Le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu, qui coule du cœur de Jésus, c'est un fleuve de miséricorde. Et n'importe quel pécheur peut venir pour s'y abreuver chaque fois que nous aurons péché. C'est la nouvelle alliance signée dans le sang de Jésus-Christ. C'est cela. Et encore une fois, je le répète, c'est cela la bonne nouvelle. Et il est un verset d'Isaïe bien connu qui résume un peu ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe 53, 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous devons demander pardon. Mais il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas de pardon possible sans repentance. Pas de pardon possible sans repentance. C'est-à-dire sans regret, sans repentir du mal que chacun de nos péchés a occasionné pour le Sauveur. Et en Luc 13, 5, on lit cette parole, « Repentez-vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Repentez-vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous, dit le Seigneur. Alors, il est une parabole sans doute la plus belle de toutes, qui exprime le pardon de Dieu vis-à-vis du pécheur, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Vous connaissez tous cette parabole, bien sûr, mais je voudrais en dire un mot quand même. Cette parabole, donc, raconte l'histoire d'une ruine, du naufrage d'une vie humaine. Le fils a coupé les ponts avec le père pour faire sa vie. On entend souvent cela, même de la part de nos jeunes. Je veux faire ma vie. Les plaisirs et les séductions du monde l'ont étourdi un moment, mais ses illusions sont rapidement tombées. Il va arriver au fond de la fosse. Il va connaître l'humiliation et il va toucher au fond de la déchéance. Et perdu, ne sachant pas comment s'en ressortir, il tenaillé par la soif et la faim, il en fut réduit à disputer la nourriture aux cochons dont il s'occupait. C'est l'image de la vie du pécheur. Mais qui c'est cet enfant prodigue? Qui est l'enfant prodigue? Ben c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est moi. Nous sommes tous l'enfant prodigue. Nous tous, frères et sœurs. Alors, tenaillé par la soif et la faim, comme j'ai dit, il en fut réduit à disputer la nourriture aux cochons dont il s'occupait. Les Juifs n'élevaient pas de cochons, car c'était un animal impur. C'était les mercenaires étrangers, les étrangers, disons, qui élevaient les cochons. Ce fils de Juif en arrive si bas dans sa déchéance qu'il est obligé de s'occuper des cochons, mais en plus de leur disputer la nourriture. Alors, il s'assit, il prend sa tête entre ses mains pour réfléchir, et il fait le bilan de tout ce gâchis, et il reconnaît ses erreurs. Il regretta son départ, et le chagrin qu'il a occasionné à son père. Et ce fut pour lui une prise de conscience salutaire. Et cela va lui faire prendre la bonne décision. Non pas la fuite en avant, mais le retour en arrière. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Et une à une, il va remonter les marches de la déchéance qu'il avait descendue. Et un cri va jaillir de son cœur. « Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Luc 15, 18. Voilà, ce fut un acte de repentance qui l'amena à une vraie conversion, celle du cœur. Et pendant ce temps, son père le croyait mort. Comment imaginer la joie de ce père quand on lui annonça que son fils était de retour. Il court en avant, il court devant pour le serrer dans ses bras. Il ne s'occupe pas qu'il sent le lisier de cochon à planer. Il le prend dans ses bras et dans ses yeux, remplis d'une tendresse émue, aucun reproche, aucune amertume, et dans sa bouche, aucune remarque déplaisante, mais seulement des mots d'accueil. Ce Père, c'est l'image du Père céleste, bien sûr, qui est tellement heureux lorsqu'un pécheur se repent et revient vers lui. Aucun reproche, rien, uniquement des mots d'accueil. Le Père, il a toujours les bras grands ouverts pour le pécheur qui revient. Apportez, dit le Père, la plus belle robe. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. La robe blanche, représente la justification, le pardon total des fautes. La bague est le somptueux cadeau qui scelle la réconciliation, qui scelle la nouvelle alliance entre le Père et le Fils. Et elle symbolise la restauration intégrale des relations. Et c'est vrai, de merveilleuses bénédictions sont réservées aux pécheurs qui se repent, aux pécheurs qui se réconcilient avec Dieu. Et la fête commença dans les réjouissances de toute la maisonnée. Sauf peut-être pour le fils aîné, quelque peu jaloux, c'est vrai. Et cette parabole nous fait penser à une autre qui suit en Luc 15, celle de la brebis perdue et retrouvée. Et Jésus affirme, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le pardon comporte deux volets. Le pardon que l'on reçoit de Dieu, et dont je viens de parler, mais c'est surtout du deuxième volet dont je veux vous entretenir, le pardon que nous devons nous donner à nos frères. Car Jésus nous demande à notre tour de pardonner. Jésus est venu annoncer le pardon des offenses. C'est le point central de la vie chrétienne. C'est le point central. C'est une condition sine qua non de notre vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas de relation possible avec Dieu tant que nous conservons au fond de notre cœur des non-pardons. Tout ce qu'on peut ajouter n'est qu'illusion. Le païen, lui, n'a pas besoin de pardonner. C'est vrai. Alors que pour le chrétien, le pardon conditionne sa relation avec Dieu. Et cela découle du commandement central, aimez-vous les uns les autres, car pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est aimer. C'est aimer l'autre. Comme Jésus nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, parce qu'il nous aime d'un amour inimaginable. Hein? Le pardon n'est rien d'autre chose que de l'amour. Voilà. Alors, à qui Dieu demande-t-il que nous pardonnions? À nous-mêmes d'abord. À nous-mêmes, frères et sœurs. Et ce n'est pas le plus facile. Beaucoup de chrétiens, même s'ils savent qu'ils ont été pardonnés à la croix, sont incapables de se pardonner à eux-mêmes leurs fautes passées, leurs errements, leurs échecs. Exemple, beaucoup de femmes qui ont avorté conservent toute leur vie de la culpabilité. Parce qu'elles sont incapables de se pardonner à elles-mêmes. Ça s'appelle donc la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi de Dieu, qui veut par la culpabilité nous faire croire que le pardon reçu de Jésus-Christ n'a pas été total. Par la culpabilité, il nous déstabilise, il nous tourmente. Il faut se débarrasser de la culpabilité. Il faut chasser la culpabilité. Je le répète, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi de Dieu. La culpabilité constitue un barrage à l'action de l'amour de Dieu en nous. Nous devons, je le redis, nous débarrasser de la culpabilité. Et nous devons accepter le pardon de Dieu. Il faut pardonner, donc, à nous-mêmes. Il faut pardonner, bien évidemment, aux autres. Car on aime être pardonné. Mais donner son pardon aux autres, ce n'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus difficile et même, parfois, c'est impossible. Le pardon aux autres est parfois humainement impossible. Quand la blessure est trop vive, quand elle est trop profonde, quand elle est trop grave, humainement, le pardon est impossible. Et pourtant, la parole de Dieu est formelle. Elle dit, en Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » C'est clair, c'est net, c'est incontournable. Il n'y a rien à ajouter. Nous serons pardonnés dans la mesure où nous pardonnons. Si nous réclamons le jugement pour nos frères, nous récolterons le jugement de la part de Dieu. Si nous acceptons la miséricorde de Dieu, nous devons faire miséricorde à nos frères. Et chaque jour, nous disons, ou presque, pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est exactement la même parole. Nous serons pardonnés comme nous pardonnons, ni plus ni moins. Comme. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Nous serons pardonnés comme. C'est une égalité. On dit souvent cette phrase, comme ça, sans y penser, mais c'est une parole qui engage vraiment. Et puis il y a une autre... C'est la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira de mesure pour vous, dit encore le Seigneur. C'est la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira de mesure pour vous. Et puis il y a cette béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce qui veut dire que les non-miséricordieux ne pourront pas obtenir miséricorde. C'est clair. Et Pierre dit, « Mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Les rabbins juifs disaient jusqu'à 3 fois. Or, Jésus est un rabbin juif. Alors, Pierre, pour titiller Jésus, lui dit, jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire un nombre infini de fois. Autant de fois que cela sera nécessaire. Il n'y a pas de comptabilité dans le pardon. C'est dur, hein? Mais c'est ainsi. Les exemples et les citations bibliques abondent tout au long de la Bible. La plus belle image, bien sûr, c'est Jésus qui lui-même, sur la croix, alors qu'il agonise dans d'atroces souffrances, peut encore dire à ce Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou encore Étienne, le premier martyr de l'Église, alors qu'il agonise sous les pierres de la lapidation, peut encore murmurer, « Père, ne leur retiens pas ce péché. » À qui faut-il donc pardonner ? À tous. À tous. Même à nos ennemis. Et voilà la spécificité du christianisme. Le pardon... Même aux ennemis. Vous ne retrouvez ça dans aucune autre religion. Et au mois d'avril, nous étions au Maroc et nous parlions du pardon dans une famille musulmane. Le pardon, c'est une notion qu'ils n'ont pas du tout. Si on a été offensé, on se venge. Point. Vous voyez? À tous, c'est la spécificité du christianisme, je le redis. Et ce n'est pas facile. Mais Seigneur, je suis américain. Et j'ai vu toute ma famille brûler vive dans l'effondrement des tours jumelles, quand elles se sont effondrées sous les coups des avions de Ben Laden. Tu ne peux pas, Seigneur, me demander de pardonner à Ben Laden. C'est impossible, Seigneur. Et Jésus lui dit, même à Ben Laden, tu dois pardonner. Car je suis mort sur la croix pour Ben Laden aussi. Comme pour toi. J'ai versé mon sang pour lui aussi. Et tous les forfaits de Ben Laden ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de mon amour. Et tu dois lui pardonner aussi. Le pardon ne souffre aucune exception. C'est dur, Seigneur. Ou bien encore, Seigneur, je suis juif. J'ai vu toute ma famille partir dans les trains de la mort vers Auschwitz. Et toute ma famille est passée par les fours crématoires. Seigneur, vraiment, tu ne peux pas me demander de pardonner aux bourreaux nazis. C'est absolument impossible, Seigneur. Et Jésus dit, même aux bourreaux nazis, tu dois pardonner, car je suis mort sur la croix pour eux aussi. Le pardon, frères et sœurs, tel que le Seigneur le veut, c'est difficile. C'est difficile. Mais, si nous parlons de ceux qui sont loin, de nos ennemis, de Ben Laden, etc., nous allons rapprocher, car ce sont les gens avec qui nous vivons chaque jour, ce sont les gens que nous aimons le plus qui nous blessent le plus. C'est dit d'une autre manière, c'est dans la famille que se donnent les plus profondes blessures. Ce sont les gens, je le répète, avec qui nous, ou auxquels nous nous frottons chaque jour, ou avec lesquels nous vivons chaque jour. C'est là, et en particulier dans la famille, que se font les plus profondes blessures. Et c'est là que nous avons le plus de pardon à donner. Par exemple, parents qui êtes ici, vous arrive-t-il de demander pardon à vos enfants? À vos enfants. Certains diront, mais vous inversez les rôles, là, monsieur. Non, non, non. Comment voulez-vous que vos jeunes, que vos enfants vous demandent pardon si vous, parents chrétiens, vous ne leur montrez pas l'exemple? La famille, c'est le centre d'apprentissage du pardon. Soit vos enfants apprendront le pardon dans la famille, ou bien ils ne l'apprendront jamais. Ils l'apprendront dans la famille, ou ils ne l'apprendront jamais. Et les meilleurs parents blessent leurs enfants, même sans le vouloir. Et c'est ce que l'on appelle les blessures de l'enfance, qui vont suivre le jeune toute sa vie, le déstabiliser et souvent l'amener à commettre bien, bien des bêtises. Oui, parents chrétiens, nous devons demander pardon chaque fois que cela est nécessaire à nos enfants. J'insiste, ça mériterait d'être développé, bien sûr, mais déjà en prendre conscience. Et si ce n'est pas commencé chez vous, dans votre famille, eh bien, prenez conscience que c'est absolument capital. Et que c'est capital pour eux, car tout commence dans la famille. Dans ce domaine du pardon, je le répète, tout commence dans la famille. Et bien sûr, enfants, nous devons demander pardon à nos parents. Ben, pour notre comportement, pour notre ingratitude, pour quantité de choses. Les enfants blessent souvent très profondément leurs parents. Nous devons demander pardon à tous nos agresseurs, quels qu'ils soient. Nous devons demander pardon à notre Église, à nos responsables, à nos pasteurs, à nos responsables de groupes de prière, etc. Car dans les groupes chrétiens, que de blessures sont faites là, par la médisance, par la zizanie, par les, etc., critiques, etc. Nous devons demander pardon à tous, je le répète, à nos supérieurs, à nos employeurs, à nos collègues de travail, etc. Et plus la blessure est profonde, plus le pardon est nécessaire et plus il sera libérateur. Mais il y a un autre lieu où le pardon est encore plus nécessaire. C'est le couple. En fait, tout commence là. J'ai dit dans la famille, oui, mais dans le couple d'abord. Car dans le couple, le pardon, c'est la respiration du couple. Dans un couple, quand on ne se demande pas pardon, c'est l'asphyxie du couple. Et l'asphyxie entraîne quasi inéluctablement la mort du couple. Que de larmes! Que de drames auraient pu être évités, que de séparations, que de divorces auraient pu être évités si on l'avait su plus tôt, que de cœurs brisés, que de vies gâchées auraient pu être évitées si on avait mis cela en pratique. Le secret de la longévité d'un couple, c'est le pardon. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si on ne se demande pas pardon, ça ne dure pas longtemps. Parce que, il faut dire ce qui est. Après l'euphorie des premiers mois, ou des premières années, où on se dit, ça y est, c'est pour la vie. On ne voit que la rose. On n'a pas encore vu les épines qui sont derrière. Au bout de peu de temps, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que les deux conjoints sont sur deux rails qui ne se rencontrent plus. Oh, on est l'un avec l'autre, mais on n'est pas en communion, on n'est pas ensemble. On ne communique plus. Pour les gens du monde, c'est un beau couple, mais il n'y a plus de communication. En fait, l'amour est en train de mourir, tout doucement, sans faire de bruit. Et un jour, il faudra dire, il faut que nous nous séparions. C'est ça. Alors, exemple encore. Les hommes qui êtes ici, les maris qui êtes ici, depuis combien de temps n'as-tu pas dit « je t'aime » à ta femme ? Réfléchis. Lorsque tu as connu ta femme les premiers temps, toute la journée, tu lui disais « je t'aime, chérie ». Et maintenant, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, combien de fois tu le lui dis par jour ? Le problème est là. C'est pas vrai, ça ? Sache que chaque jour qui passe, sans que tu lui dises cela, chérie, je t'aime, c'est une souffrance pour elle. Et cette souffrance, elle ne te le dira pas. Elle l'enfouit au fond de son cœur. Mais elle est là. Mais, épouse qui es ici, depuis combien de temps n'as-tu pas dit je t'aime à ton mari ? Car sous ses apparences indifférentes ou machistes, sache que ton mari a un cœur aussi. et qu'il aime entendre ces petits mots-là également. Vous voyez? C'est des petits... En fait, un couple, c'est un tas de petites choses, un tas de petits riens. C'est les petites choses qui sont importantes dans la vie. Vous savez, on dit d'ailleurs, le secret de la sainteté, c'est la fidélité dans les petites choses. Mais dans un couple, l'amour dans un couple est fonction des mille petites attentions, des mille petits égards que l'on peut avoir l'un pour l'autre. Peut-être, mesdames, peut-être que vous avez déjà fait cette prière. « Ah Seigneur, change mon mari !» Ou bien, les maris, « Ah Seigneur, change ma femme !» Alors, vous pouvez faire cette prière toute votre vie, parce que c'est une prière que le Seigneur n'entend jamais. Il ne vous exaucera jamais, je vous le dis. Donc c'est pas la peine. Soit vous pouvez continuer, si ça vous chante. Non. La prière que le Seigneur veut entendre, c'est « Seigneur, change-moi. Change-moi pour que je puisse prendre mon mari, ma femme, tel qu'il est, tel qu'elle est, accepter ses qualités comme ses défauts. Seigneur, change mon regard. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir mon conjoint tel que tu le vois, toi. Et ainsi ne voir que le bien en lui. » Ça, c'est une prière que Dieu entend. Change-moi, et non pas... C'est lui qui a besoin d'être changé. Non, non, non. C'est nous-mêmes. Vous voyez ? Encore une fois, donc, le pardon, c'est la respiration du couple. Et la Bible nous donne un fameux conseil. Mais quand vous êtes au lit le soir, ne laissez jamais le soleil se coucher sur une colère, sur un reproche, sur un non-pardon. C'est là, sur l'oreiller, le moment idéal dans un couple pour se demander pardon ou pour pardonner. C'est là, sur l'oreiller. Même si l'on a raison, même si l'on est convaincu que l'on a raison, il faut quand même pardonner et demander pardon. Parce que c'est toujours l'autre. S'il me demande pardon, d'accord, je lui pardonnerai. Mais non, le Seigneur ne raisonne absolument pas comme cela. Si vous êtes chrétien, c'est à vous d'être capable de vous humilier, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Demander pardon, même quand on sait que l'on a raison, n'est-ce pas cela le véritable amour ? C'est ça le véritable amour. Et si celui à qui vous pardonnez ou à qui vous demandez pardon ne reçoit pas votre pardon, cela arrive souvent, hélas, s'il vous envoie sur les roses, comme on dit, c'est frustrant. On aimerait tellement que l'autre réponde et que l'on se réconcilie. Sachez que le Seigneur, il vous demande de pardonner ou de demander pardon. Le reste ne vous appartient pas. Le reste ne vous appartient pas. S'il y a une suite positive, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est entre Dieu et cette personne-là. C'est dommage, c'est frustrant, comme je disais, mais le reste ne vous appartient pas. Vous aurez fait ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Les effets du non-pardon dans le cœur sont catastrophiques, sont dévastateurs. Beaucoup plus même peut-être qu'on se l'imagine. D'abord, sur le plan spirituel, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de relation possible avec Dieu tant que nous conservons au fond de notre cœur des non-pardons. Le Seigneur dit, quand le dimanche tu arrives au culte, s'il te vient en mémoire que l'un de tes frères a des reproches à te faire, n'entre pas. N'entre pas. N'assiste pas au culte. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens ensuite apporter ton offrande. Il est tellement plus important que vous alliez vous réconcilier avec votre frère que d'assister au culte. C'est ce que dit Jésus. Ce n'est pas moi. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après, ok. Vous voyez ? Je prends souvent cette comparaison. Sous les lavabos, il y a un siphon. Et dans le siphon, il y a parfois un tampon de saleté qui se met là, et l'eau ne passe plus. Le lavabo ne se vide plus. Eh bien, un non-pardon dans le cœur fait le même effet vis-à-vis de la grâce de Dieu que le tampon de saleté vis-à-vis de l'eau. La grâce ne coule plus. Les bénédictions que le Père voudrait vous donner ne vous atteignent plus. Et on croit quand même être un bon chrétien, je dirais. On continue. Ben oui, mais non, la relation est coupée. Le non-pardon peut se comparer à un robinet qui se tarirait ou à une canalisation qui serait bouchée. L'eau vive ne coule plus. Vous voyez ? Alors, on continue de prier, « Seigneur, accorde-moi ceci, Seigneur, je voudrais telle guérison, telle grâce. » Et on ne voit rien venir. Le Seigneur redit, « Va d'abord te réconcilier avec ton frère. » D'ailleurs, pardon et guérison sont intimement liés. Pardon et guérison sont intimement liés. Vous voulez être en bonne santé, frères et sœurs ? Pardonnez. Vous voulez guérir ? Pardonnez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que si le pardon a des effets destructeurs sur notre vie spirituelle, il en a d'abord sur notre psychologie. Parce que vous savez, quand on a un non-pardon dans le cœur, on est malheureux. On n'est pas heureux, on perd la joie, on perd la paix. On a le cœur comme dans une prison, on voudrait en sortir. Mais il y a notre orgueil, il y a notre amour-propre qui nous empêche de nous humilier pour demander pardon. Et c'est l'autre qui doit d'abord demander pardon. On verra après. C'est toujours ainsi. Hein? Et sur le plan donc psychologique, oui, mais sur le plan physique, avez-vous réfléchi un instant que les médecins s'accordent pour dire que la plupart de nos maladies physiques viennent du mal-être intérieur. Le mal-être, c'est-à-dire la colère, la rancœur, l'amertume, le non-pardon, la vengeance, etc. Les maladies physiques, si vous voulez, se nourrissent de ça. C'est comme s'il y avait des racines qui étaient nourries par toutes ces choses-là. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont les médecins. Et je regardais il y a quelque temps une émission, vous savez, c'est sur Antenne 2, c'est le matin. Ça s'appelle Télématin, je crois, oui, voilà, avec William Lamergie. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et il y avait une rubrique santé. Et je vois donc santé, deux points. Une nouvelle thérapie aux États-Unis, deux points.
Le pardon.
Je trouvais ça extraordinaire, puisque les médecins disent ce que la Bible dit. Vous voyez ? Elle confirme, la science confirme, ce que nous sommes en train de vous dire sur le plan spirituel. C'est pour ça que il y a une formule qui dit plus de pardon, c'est une équation, hein, plus de pardon égale moins de médicaments. Vous voyez? Plus de pardon égale moins de médicaments. Les trois quarts. De nombreuses maladies physiques, encore une fois, d'ailleurs on dit souvent que le psychologique agit sur le physique, et inversement, c'est une banalité même de dire cela. Mais c'est particulièrement vrai pour le non-pardon. Parce que le non-pardon est une puissance de mort qui est en nous, alors que le pardon est une puissance de vie. Le non-pardon est un cancer qui coule dans nos veines. Un cancer au sens propre, au sens figuré. C'est un cancer, c'est un poison qui coule dans nos veines. Parce que les médecins disent que lorsqu'on a tout cela en nous, toutes ces choses négatives-là, le cerveau fabrique des toxines qui sont répandues dans le sang et qui nous empoisonnent. Alors vous voyez, on a tout à gagner à pardonner. Sur tous les plans, mais même sur le simple plan physique. Voyez. Alors, oui, avant peut-être de te précipiter chez le pharmacien pour acheter des médicaments, des calmants, des sédatifs, des somnifères, examine-toi. Es-tu en paix avec toi-même? Es-tu en paix avec ton Dieu? Es-tu en paix avec tous tes frères? Bien. Le pardon, on a tout à y gagner. Si on savait les bénédictions incroyables qu'il y a dans le pardon. D'abord, dans le pardon, il y a la joie. Quand on a été capable de le pardonner, on est rempli d'une joie incroyable, d'une joie et d'une paix extraordinaire. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pu pardonner, je vous l'ai dit ce matin, à ma fille Sarah, entre autres. L'obtention d'une grâce, l'obtention d'une guérison ou de n'importe quoi d'autre est très 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 souvent conditionnée à un pardon que nous devons donner ou demander. Il est remarquable de constater que la guérison de Rita est intervenue après que moi-même j'ai pu pardonner à ma fille Sarah. Mais vous allez dire, mais là, je ne comprends pas. C'est vous qui avez pardonné et c'est votre femme qui a été guérie. Pourquoi cela? C'est une question que je vous pose.
Est-ce qu'on fait un? On fait un, une seule chair?
Exactement, madame. Le mari et la femme ne sont que une seule chair. Alors, souvent, c'est très mal compris, cela. Une seule chair. Quand on demande aux gens du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, ça, c'est le soir des noces. C'est pas ça du tout, bien sûr, pas du tout. L'homme et la femme sont une seule chair 24 heures sur 24. C'est-à-dire, ils font un. Un. Et le mot hébreu pour dire cela, c'est collé. Ils sont. C'est-à-dire, ils ne forment plus qu'un. Et tout ce que fait l'un de bien rejaillit sur l'autre. Et tout ce que l'autre fait de mal, réjaillit sur l'un. C'est réciproque, parce que c'est comme si on est un. D'ailleurs, quelquefois, quand un homme parle de sa femme, il dit « ma moitié ». C'est exactement ça. Il n'est plus que la moitié de lui-même quand il n'a pas sa femme. Ou inversement, bien sûr. Vous voyez? Oui, je suis convaincu que si je n'avais pas pu pardonner à ma fille Sarah, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu la guérison 2 mois plus tard. Vous voyez? L'homme et la femme ne sont qu'une seule chair. Biologiquement, psychologiquement, socialement, etc., etc., etc. Hein? physiquement, bien sûr, etc. Mais voilà, bon, je ne vais pas développer cette idée, parce que ça m'entraînerait trop loin. Mais quand même, retenez que dans le mariage, tel que le Seigneur le veut, donc le mari et la femme ne forment plus qu'une seule chair, cela signifie que, je le répète, prenons cet exemple d'un mari qui serait au large, qui irait voir ailleurs, il ramène dans son foyer et il transmet à sa femme les choses négatives qu'il a prises à sa partenaire extérieure. Et inversement, bien sûr. C'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. Vous voyez, ils sont une seule chair. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, ils sont collés l'un à l'autre. C'est le mot hébreu cela. Eh bien, l'image qui rend le mieux compte de cela, c'est deux cartes à jouer que vous collez l'une contre l'autre. Lorsque vous voulez les détacher, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est difficile d'abord, mais ça grince, ça crie. Car toute séparation est douloureuse. Et puis, il y a des morceaux de la première carte qui restent sur l'autre et réciproquement. Ben, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Oui, le pardon, donc je n'ai pas besoin de continuer longtemps, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et vous voyez, quelquefois, on peut nous dire, ah ben je ne veux pas lui pardonner, je ne veux pas lui faire une fleur. Mais je dis non, ce n'est pas une fleur que tu vas lui faire, c'est un bouquet que tu vas t'offrir à toi-même. C'est à toi-même que tu vas faire du bien. C'est pas à l'autre. C'est à toi-même. Et sache que tant que tu n'as pas pardonné, tu es lié à cette personne. Vous êtes lié par un lien négatif, invisible. Et le pardon te libère de ce lien. Pardonner suppose un acte de volonté. Il faut le vouloir. Ça ne tombe pas tout cuit du ciel, ou en tout cas rarement. Il faut le vouloir. C'est un acte de volonté, c'est une décision que l'on prend. En sachant que c'est le passage obligé. On ne peut pas contourner l'obstacle. Si l'on est chrétien, on est obligé de passer par le pardon. On ne peut pas passer à côté. C'est une décision que l'on prend. Vous voyez, il y a des personnes qui disent, voilà, je ne veux pas lui pardonner. Alors je dis, ok, je ne veux rien pour toi et Dieu non plus. Puis c'est tout. Parce que Dieu respecte notre liberté. Toujours. Par contre, si la personne dit, je veux lui pardonner, mais je ne le peux pas. Je ne le peux pas parce que je suis trop blessé. Là, c'est autre chose. La grâce de Dieu peut suppléer, peut venir à ton secours. Si tu veux pardonner et que tu ne le peux pas, c'était mon cas d'ailleurs, la grâce de Dieu peut faire que l'impossible devienne possible. Vous voyez ? Alors, beaucoup de personnes encore, on entend ça. Ah, ça y est, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus l'avoir. Je ne veux plus lui parler. Ce n'est pas le pardon, bien sûr. Ce n'est même pas une grossière caricature du pardon. Ce n'est pas le pardon du tout, ça. Du tout. Non. Tant que tu conserves dans ton cœur de l'amertume, de la rancœur vis-à-vis de la personne qui t'a gravement blessé, ton pardon n'est pas complet. Tant que tu n'es pas capable de repenser aux événements de ton passé qui t'ont gravement blessé, ou aux personnes qui t'ont gravement blessé, sans en souffrir, ton pardon n'est pas complet. Tant que tu ne seras pas capable de prendre dans tes bras la personne qui t'a gravement offensé pour lui dire « Mon frère, ma sœur, je t'aime », ton pardon n'est pas complet. Ah bon ? Ben oui. Il y a du boulot. Exact. Non, mais... Vous voyez ? Parce que beaucoup de personnes croient avoir pardonné. Dès qu'on gratte un tout petit peu, voilà. Alors, le pardon, c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut surtout, c'est s'engager sur un chemin qui conduit au pardon. Et ça, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté. D'abord, il faut prendre conscience, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance incroyable du pardon. Et surtout, dans les effets négatifs du non-pardon, après qu'on a pris conscience de dire c'est vrai, bien, donc il faut que je m'engage sur un chemin de pardon. Même si cet après-midi, je ne suis pas encore capable de pardonner complètement, mais au moins, j'en prends conscience que je vais être obligé de passer par là. Je ne peux pas m'y soustraire si je veux être disciple de Jésus-Christ. Car le disciple de Jésus-Christ est un artisan de paix. Il est en paix avec tous ses frères. Si tu n'es pas en paix avec tous tes frères, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Ah oui ? Il y a une citation de la première lettre de Jean. Il y a deux citations que je vais vous lire. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et une autre citation, toujours dans la première lettre de Jean, quiconque est son frère est un meurtrier. Il n'y va pas de main morte. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'aura part à la vie éternelle. Ouh, ouh, ouh. Vous voyez ? Ce n'est pas facile. Et on n'a jamais fini avec le pardon. On n'a jamais fini. Parce que, encore une fois, le simple fait de vivre ensemble fait que nous nous frottons les uns aux autres et que sans cesse, nous nous blessons. Donc il y a sans cesse des pardons à redemander. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ce qui est de l'enseignement proprement dit. Parce que, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'épuiser le sujet. Il y a tellement de choses à dire. Mais seulement appuyer sur quelques points. Il est certain quand même que le pardon rend nos prières efficaces. Parce que, je le répète, quand on a des non-pardons, il y a un barrage. Va d'abord te réconcilier, on verra après. Voilà. Et je le redis encore, vous voulez être en bonne santé, pardonnez. Si vous êtes malade, vous voulez guérir, pardonnez. Même si vous ne retenez que ça, c'est déjà pas mal. Surtout si vous le mettez en pratique, bien sûr. Alors, je voudrais maintenant entrer avec vous dans une prière de pardon. Cette prière de pardon va être assez longue.
Moi, je reviendrai un petit peu par rapport à mon père et aussi à mes filles. Parce que juste après ma guérison, ça, c'est vrai que j'avais beaucoup de bons contacts avec les gens de l'extérieur. On dit qu'on est toujours bien avec les gens extérieurs, mais ceux qui sont toujours auprès de nous, comme Jean-Claude disait, c'est là que ça s'accroche pas mal. Mais comme la parole que Jean-Claude a donnée, que celui qui est, qui n'aime pas son frère, genre un jour Jésus m'a dit qu'il était un menteur. Celui qui dit m'aimer, qui ne me voit pas et qui n'aime pas son frère qui le voit, celui-là est un menteur. Et moi, le jour où Jésus m'a dit cette parole en lisant la Bible, j'ai reçu la plus belle claque de ma vie. J'ai dit, bah, c'est bien, donc je suis encore une menteuse, quoi. Donc, parce que j'avais ce problème avec mes filles, que c'est vrai que je les avais quand même fait souffrir. Parce que quand j'étais malade, moi je vous dis, j'étais imbuvable. Moi, j'étais impatiente, je demandais quelque chose, il fallait que ce soit tout de suite, et donc je leur en voulais beaucoup. Et après ma guérison, ben, un jour, quand j'ai compris cette vérité, je les ai appelées une à une, et je leur ai demandé pardon. Et c'est là aussi que je vais commencer à voir dans la vie de mes enfants ben, des changements. Il y en a qui vont aussi ben, se détourner des ténèbres pour venir dans la lumière. Et là, je veux surtout parler de mon père. Quand j'étais dans cet enseignement, le serviteur disait qu'à la fin, il avait demandé, l'enseignement c'était sur une lettre, c'était le bête, c'était la maison du père.
La première lettre de la
Bible. Et à la fin, il a dit, voilà, aujourd'hui, tous ceux qui veulent retourner à la maison de Abba se lèvent. Je peux vous assurer, il y avait 400 personnes dans la salle. Il y avait 399 personnes debout, sauf Bibi qui avait été assis sur sa chaise. Pas que je ne voulais pas me lever, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose que je ne voulais pas me lever. Lui, il est venu, il m'a touché le front et j'ai fait un vol plané par terre. J'étais toute seule par terre, surtout je ne voulais pas tomber. C'est pour ça que je ne me suis pas levée. Et puis, lui, il a conduit la prière. Et quand j'étais par terre, moi j'ai vu le visage de mon père. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire là, lui? Il était venu me déranger. Dans mon repos de l'esprit, il était venu me déranger. Et puis, rentrant à la maison, ce serviteur nous a dit, ce que je vous demande, c'est vraiment de ne pas lire la Bible avec votre tête, c'est-à-dire avec vos tripes, comme vous mangez un bon bistec. Et le matin, j'ai voulu vraiment mettre ça à exécution, et quand j'ai commencé ce matin-là à prier, donc Dieu m'avait donné cette parole de Deutéronome 8, oh, quand il dit « Souviens-toi de ton chemin », au début, je me souvenais très très bien. Mais à la fin, je n'étais plus d'accord, donc là, et là, le Seigneur est intervenu. Je vous dis, pendant de 7h du matin jusqu'à midi, j'avais l'impression que j'avais le pied de Dieu sur mon cou, jusqu'à ce que je cède. Et à un moment donné, je lui ai dit, Seigneur, tu as gagné, bon, j'arrête de me battre avec toi. Et vraiment, là, il y a ce cri qui est jailli de mon ventre en me disant, en criant, je t'aime, papa, laisse-moi t'aimer. Mais comme je ne savais pas, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon père. Quand je lui avais écrit une lettre pour lui demander, ben, pour lui dire que je lui pardonnais, mais je lui avais pardonné, mais je ne l'aimais pas, je le voyais toujours, j'avais toujours de la haine dans mon cœur pour mon père. Et donc, ce matin-là, quand j'ai crié « Je t'aime, papa », c'est comme si, pareil, c'est comme un venin qui est sorti de moi. Et là, j'ai vraiment senti aussi la paix de Dieu m'envahir. Mais quand j'ai écrit toutes ces notes, j'avais pris toutes les notes que j'avais mises dans mon cahier de prière que je fais le matin. Et longtemps après, on va aller à l'île de la Réunion. Ah oui, le lendemain, donc j'ai voulu appeler les organisateurs de cette convention pour lui partager que j'avais vécu après le rassemblement. Elle me dit, ben écoute, il y a encore le frère Roger qui est là. Elle m'a dit, moi je suis en train de préparer le petit déjeuner, je te le passe. Et heureusement que lui, il était loin et moi j'étais à Tours. Quand je lui ai parlé, parce que je lui ai dit, voilà, je voudrais... vous parler, puis je lui ai raconté un rêve que j'avais fait le soir. Dans ce rêve, je voyais mon père qui sortait d'un champ de maïs. Il est venu vers moi, il était habillé en blanc, et il m'a apporté un fruit à pain. Un fruit à pain, c'est un fruit de chez nous. C'est un arbre qui donne des grosses de pommes comme ça, qui sert un peu comme nous, chez nous, c'est la pomme de terre en France, et là-bas, on fait des frites avec ça, ou de la purée. Il a déposé à mes pieds, puis il est parti. Et moi, ce rêve m'a tellement perturbée, j'ai réveillé Jean-Claude dans la nuit. Ah, j'ai dit, je vais faire un rêve bizarre. Puis il m'a dit, ben, laisse-moi dormir. Et il m'a dit, d'habitude, je ne porte pas conséquence au rêve, mais celui-là, il me parle parce que c'est un rêve prophétique. Et il m'a dit, si tu as vu ton père qui était beau, c'est qu'il est sauvé. Et moi, j'ai dit, tu crois? Moi, j'ai dit, tu connais mon père, et je suis sûre qu'il n'est pas sauvé. Il m'a dit, qui es-tu pour juger ton père? Et là, il m'a dit de me chausser de mes baskets et qu'il allait m'emmener au calvaire. Et quand il m'a dit au calvaire, qu'est-ce que tu vois, ben, je lui ai dit, ben, il y a les trois croix dressées. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit au bon larron, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Mais je n'étais toujours pas très convaincue. Et puis, ben, le temps passe. Nous, après, 5 ou 6 ans après, on va à l'île de la Réunion. Et là, j'ai une amie, elle me dit, écoute, je t'invite à déjeuner parce qu'il y a quelqu'un qui veut te voir, parce qu'il a quelque chose de très important à te dire. J'ai dit, c'est qui? Elle m'a dit, c'est un aumônier qui travaille à l'hôpital de Saint-Pierre. Et c'est bizarre parce que c'est dans cet hôpital-là que j'ai mis mon bébé au monde aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Elle me dit, je sais pas, moi. Elle me dit, tu verras quand il arrive. Oh, il m'a dit, je suis contente de te voir. Il me dit, parce que là, il a fait le geste de sortir de son dos comme un paquet. Il m'a dit, je vais déposer le paquet que j'ai sur mon dos depuis des années. Je traite ça pour toi. Il m'a dit, c'est le pardon de ton père. J'ai dit, t'as connu papa? Il m'a dit, oh oui, j'ai connu ton père. Et là, il m'a dit, voilà, il me raconte, et il m'a dit, mais il y a un trou dans... Un vide que je n'arrive pas à comprendre. Mon papa est arrivé donc dans cet hôpital, lui étant aumônier, il s'appelle Nicodème, ce père-là. Nicodème, parce qu'il a pris le nom Nicodème le jour de sa nouvelle naissance. Et il m'a dit, quand son père est arrivé, j'ai voulu le voir, et il a dit, je ne veux pas de curé dans ma chambre. Ben, il a dit qu'à cela ne tienne, et moi je suis resté 3 jours dans le couloir, j'ai intercédé pour ton père, j'ai prié, j'ai jeûné aussi, et la porte ne s'ouvrait pas. Et un jour, le 3e jour, l'infirmière lui dit, écoutez, monsieur Warreau, le prêtre, il est têtu et vous, vous êtes têtu. Il a dit, celui dehors, il m'embête, je ne peux pas faire mon travail, il est toujours dans nos pieds. Pourquoi vous ne le laissez pas rentrer et ce sera fini. Et là, papa, il a dit, ben, laissez-le rentrer, je vais lui régler son compte. Alors, dès que Nicodème est rentré, la porte il s'est ouverte, Nicodème est rentré, il lui a dit, bonjour, monsieur Warreau, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous aime. Ben, il a dit ça, ça m'étonnerait. Et Nicodème lui a dit, je maintiens ce que je viens de vous dire, que Jésus vous aime parce qu'il est mort à la croix pour toi. Et même si tu étais tout seul sur cette terre, il serait venu mourir pour tes péchés. Et non seulement que Jésus vous aime, mais le Père Céleste vous aime parce qu'il a envoyé son Fils mourir pour toi. Et là, papa l'a regardé, il lui a dit, je vois que ta tête, elle est dure. Ben, je vais te raconter un petit peu ma vie et tu me diras toujours si Jésus m'aime par la suite. Et papa qui rentre dans un chemin de confession et de repentance jusqu'à la fin, Nicodème l'a écouté jusqu'au bout et il m'a dit, ton père m'a fait une confession d'au moins 3 km que j'ai, heureusement que j'ai la facilité d'oublier parce qu'il m'a dit, sinon je n'endormirai plus. Et à la fin, il m'a dit une chose, il a dit qu'il regrettait quand même une chose, c'est de ne pas pouvoir demander pardon à sa fille qui était en France parce qu'un jour, il a dit, elle m'a écrit, elle m'a demandé pardon et je n'ai pas répondu. Et donc Nicodème lui a dit, ben, je prends votre pardon et si un jour Dieu me la met sur ma route, je lui donnerai de votre part. Et c'était ça qu'il voulait se décharger pour moi. Et là, il m'a dit, à un moment donné, je ne comprends plus pourquoi la porte elle s'est ouverte. Et là, je lui ai dit, mais c'était à quel moment et à quelle heure? Et donc, il m'a donné le jour et l'heure. Et quand c'était marqué dans mon cahier, ça correspondait exactement à ce que moi, j'étais en train de vivre à la maison et papa en train de mourir là-bas. C'est quand j'ai crié, je t'aime papa, que là, il a permis que le prêtre entre dans sa chambre. Et là, Nicodème m'a dit, c'est ton « je t'aime, papa » qui a fait que cette porte s'ouvre. Et en fait, il m'a dit, la porte de sa chambre s'est ouverte. Mais pour moi, ce n'est pas la porte de sa chambre qui s'est ouverte. Il m'a dit, c'est la porte de l'enfer qui s'est fermée et la porte du ciel s'est ouverte. Ouais, et là, parce qu'il m'a dit, c'est ton « je t'aime, papa » qui a fait toute la différence. Parce qu'il m'a dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand j'ai appris ça, et puis là, il m'a dit, bah, après, ton père, là, j'ai posé 2 questions fondamentales, à la fin, quand il avait fini de raconter toute sa vie, il a dit, maintenant, monsieur Warreau, non, il a dit, tétain, il a dit, monsieur Warreau, il a dit, tétain, il dit, je vais te poser une question encore, où veux-tu aller passer ton éternité? Au ciel ou en enfer? Ben, papa, il a dit, ben, j'aimerais bien aller au ciel, mais je ne sais pas si mon Dieu me demande là-haut. Enfin, il ne savait pas si Dieu voulait de lui. Ah, Nicodème m'a dit, c'est sûr qu'il voudra de toi, parce que tu as fait cette repentance, tu as eu cette repentance. Mais il a dit, pour aller au ciel, ben, c'est pas si évident que ça. Il a dit, parce que, il a dit, tu sais, qu'il y a une très grande porte où tu peux rentrer comme ça, mais il y a une petite porte, il faut vraiment que tu t'abaisses pour rentrer. Et il a dit, c'est par cette petite porte-là que tu veux rentrer. Papa, il a dit, ben oui, mais il a dit, pour pouvoir rentrer par la petite porte, il y a quelque chose à donner. Papa, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire. Ben, il a dit, si tu veux vraiment passer par la petite porte qui est étroite, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus aujourd'hui. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Il a réfléchi un petit peu, il m'a dit, la seule prière que ton père a dû faire dans sa vie, qui devait être sincère, c'était, je vous dirai en créole, comme il a dit, mon Dieu, Moi, moi, j'étais un mauvais bouc sur la terre. Mais aujourd'hui, si vous vivez encore moi là-haut dans le ciel, ben aujourd'hui, il me donne à ouer mon cœur et tout ce qui reste. Et il a dit Amen. Et Nicodème a appelé sur lui le Saint-Esprit. Et après, il est parti. Et il m'a dit, ton père, il a été...